Vous êtes sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Comment ça va les amis? Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous ce samedi matin dans une ville dont la devise est Avignon, ville d'exception. On a donc un peu plus d'une heure pour vous prouver que c'est le cas. Et vous allez voir que c'est très vrai. RTL vous régale. Alors, en Avignon, à Avignon, sur le pont, sous le pont, les réponses dans les prochaines minutes dans cette émission. Alors autant vous le dire, nous sommes très heureux de faire escale ce matin dans une ville qui est quand même le siège du Conseil mondial de la tomate. Eh oui, on est donc quand même passé à deux doigts de la rebaptiser Avignon Cité des Pâtes. Alors entre berlingot de Carpentras, melon de Cavaillon et liqueur d'Origan, laissez-moi vous présenter ceux qui, religieusement, on va rendre hommage à la ville du Palais des Papes, au cœur de cette vallée du Rhône, car ici le divin vient du vin.
Très mais... en forme, hein, Jean-Michel, c'est d'accord.
Trêve de poncif, place au pontife. Voici venir sa sainteté Jan Seb VI, Jan Sebus Sextus. Ami intime du chanoine Kir et de l'abbé Souris, grand consommateur de bénédictines, abbé Mousse, Jean-Sébastien Petit-Demange, mesdames et messieurs. Ça va, mon petit gars?
Mais très bien.
Quant à elle.
Les gouttes ou quoi?
Bien sûr. Attendez, c'est pas fini. Quant à elle, toujours aussi facilement séduite par une tête de moine, elle remercie Saint-Nectaire de lui donner son pain quotidien. Voici sœur Louise Petit-Renaud.
Bonjour. Merci pour cette belle description.
Et c'est le diable en personne qui arbitrera leur duel tout à l'heure dans le défi frigo d'11h. Vous allez jouer avec nous en nous donnant un ingrédient de votre frigo et en appelant le 3210 ou en envoyant le mot régal suivi de votre message au 64 900. Je vous rappelle que vous avez toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 11h30, pour nous appeler. Vous gagnez ce matin le robot des robots, le robot dont tout le monde rêve, le cook expert, le robot cuiseur multifonction de Magimix, pour vous aider à réaliser des plats gourmands et 500% faits maison. Je vous souhaite bonne chance. Et puis pour orchestrer cette grande messe de la régalade, Mireille Mathieu. Elle sera notre invitée tout à l'heure en fin d'émission pour évoquer Avignon, forcément. Et puis Ed Sheeran également. Ed Sheeran tout à l'heure avec Bad Habits. Et je vous rappelle que la bille ne fait pas le moine. RTL vous régale sous les remparts d'Avignon. C'est jusqu'à 11h30 sur RTL. Merci d'être avec nous. On vous souhaite un très bon début de week-end et on démarre avec Jean-Jacques Goldman.
On a fait au château il y a bien longtemps. Les belles et les beaux nobles y au noble sang. De tout le royaume en est venu dansant. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les violons. Grande fête aux rameaux et Manon à 16 ans. Servant en ce château comme sa mère avant. Elle porte les plateaux lourds à ses mains d'enfant. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les violons. Le bel uniforme en le beau lieutenant. Différent des hommes d'ici blond et grand. Le sourire éclatant d'un prince charmant. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les violons. Redouble la fête et les rires et les danses. Manon s'émerveille en remplissant les panses. Le bruit des lumières. Avance. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les violons. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche. Lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Tu es bien jolie dans un divin sourire. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les violons. Passent les années dures et grises à servir. Une vie de peine et si
ce trouble-là brûlant ses souvenirs. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux long. Elle y pense encore et toujours. Les violons, le décor et ses mots de velours. Son parfum, ses dents blanches, les moindres détails. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux long. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche. Lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Juste quatre mots, le trouble d'une vie. Juste quatre mots qu'aussitôt il oublie.
Et pendant que tournent les violons, nous, on vous emmène à Avignon dans RTL vous régale. C'était Jean-Jacques Goldman sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale. RTL. Revivre ensemble. 10h15, 11h30.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Allez, c'est parti pour ce début de week-end en balade du côté d'Avignon. Avignon qui fait partie des villes que tout le monde connaît de nom, évidemment. Situé dans le département du Vaucluse. Et bien sûr, on découvre là-bas des paysages on ne peut plus provençaux.
En arrivant là-bas, on est immergé au cœur de paysages d'une beauté envoûtante. Au fil de l'année, on vit un film en technicolor. Le jaune déjeuner, le mauve des lavandes, le vert profond des oliviers. Aussi profond ce vert que peut l'être le noir de la truffe.
Ah bah, quand on parle truffe, la noire, la tuber melanosporum, il faut évoquer le village de Richeranche qui se trouve à peu près à 70 km au nord d'Avignon. C'est vraiment le marché aux truffes le plus important du sud de la France, voire même le plus important de France.
Alors, il y a une polémique très française d'ailleurs, je trouve, à propos d'Avignon. On va résoudre l'affaire directement. Doit-on aller en Avignon? Doit-on aller à Avignon? Qu'est-ce qu'on fait finalement?
Je vais vous répondre qu'on part pour Avignon. Mais blague à part.
Non, mais on est où?
On est à Avignon.
On est d'accord.
En Avignon. On ne va plus en Avignon depuis que ça n'est plus un état souverain, c'est-à-dire depuis un petit moment. Ça n'a rien à voir avec la voyelle initiale de la cité, puisqu'on ne dit pas on va en Orange.
Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse sur le pont.
Et en fait, on ne dansait pas sur, mais sus, donc sous le pont Saint-Bénézet. C'est sur les rives du Rhône, sous le pont. Et là, il y avait des petites guinguettes, on pouvait faire la fête.
Ah ben, j'ai compris ça, oui. Il date de quelle époque, votre pont ?
Ah, le pont d'Avignon, il a été construit au XIIe siècle, ce qui constitue un exploit vu la largeur du fleuve à cet endroit. C'est l'ouvrage le plus ancien sur le Rhône entre Lyon et la Méditerranée. Alors, il a été détruit en partie en 1226. Il est reconstruit tout de suite. À ce moment-là, il compte 22 arches. Le Rhône continue de le maltraiter et c'est au XVIIe que les hommes abandonnent la partie. Les quatre arches restantes du pont Saint-Bénézet n'iront plus nulle part.
Alors, c'est le vrai nom du pont, mais est-ce qu'on sait qui était ce fameux Bénézet qui est devenu saint après et qui a construit cet ouvrage?
Alors, c'était un berger en Ardèche. Il est descendu vers Avignon en annonçant que Dieu l'envoyait pour construire un pont. Il n'y a pas eu Jeanne d'Arc, hein, pour faire des trucs comme ça. Bien sûr, il subit nombre de moqueries et le prélat de l'époque le mit au défi de jeter une pierre énorme dans le Rhône, ce qu'il fit sans difficulté.
La France a un incroyable talent, moi je vous le dis. L'autre visite incontournable à Avignon, c'est forcément le palais des papes.
Vous imaginez, c'est enserré au milieu de 5 kilomètres de remparts. Des remparts qui sont impressionnants, mais qui protègent surtout les Avignonnais du vent, en fait. Le palais fut le plus grand palais gothique du monde. 15 000 mètres carrés, construit en à peine 40 ans. À Avignon, on savait construire, hein, manifestement. On savait cuisiner aussi. Pour le banquier donné à l'occasion de l'élection de Clément VI en 1342, on a cuisiné, tenez-vous bien, 118 bœufs, plus de 1000 moutons, une cinquantaine de cochons, 1200 oies et autant de chapons, ainsi que 8000 poulets et plus de 50 000 tartes. On savait manger à l'époque.
Et puis depuis 1947, vous savez, le Palais des Papes est devenu le temple du festival de théâtre. Alors c'est à ce moment-là, la ville se métamorphose. C'est chaque année en juillet. La place du palais se renoue avec son passé médiéval, se recouvre de saltimbanques, de jongleurs. Il y a des centaines de milliers de spectateurs qui viennent voir les spectacles. On parle de in, des spectacles in et de spectacles off.
Alors dites-moi, Donald Cardwell, on est dans la vallée du Rhône. C'est un des temples du vin, on est d'accord. Alors on trouve des merveilles parmi les vins des Côtes-du-Rhône, bien sûr.
Condrieux, Côte-Rôtie. Oh oui. Des appellations communales au cœur de la plus vaste appellation, après celle de Bordeaux, hein. L'appellation Côte-du-Rhône, c'est gigantesque. 200 km de Vienne à Avignon, 163 communes sur 6 départements. Et puis il y a Châteauneuf-du-Pape. Le château était une résidence d'été des papes d'Avignon et c'est Jean XXII qui offrit la renommée à ce vignoble. Les AOC sont nés à Châteauneuf grâce à un avocat vigneron. L'appellation obtenue par les vins de Châteauneuf-du-Pape en 1836 est la première de France. Des vins absolument magnifiques qui arborent les armes papales en relief sur les bouteilles. Et en 1954, le maire de Châteauneuf-du-Pape, Lucien Jeune, a promulgué un arrêté municipal pour le moins surprenant. C'est ce qui est raconté dans un « Le saviez-vous » du Guide du Routard Provence. Cet arrêté a interdit le survol de la commune de Saint-Émilion par des soucoupes volantes.
Nous y sommes.
Et force est de constater que la réglementation a été respectée à la lettre, puisqu'il n'y a pas encore eu un seul procès verbal pour verbaliser des soucoupes volantes. Et l'arrêté, il faut le savoir, est toujours en vigueur.
Bon, il y a un autre truc complètement lunaire dans cette émission, vous savez, c'est le défi frigo.
Oui.
Voilà. Une dorée, justement, un ingrédient, une dorée. Tout à l'heure, vous aurez Jean-Sébastien et Louise, 1 minute 30 pour imaginer chacun une recette originale à partir de cet ingrédient ou de cette dorée. Je vous rappelle que ce matin, vous gagnez le Cook Expert, le robot cuiseur multifonction de Magimix. Enfin, pas vous, mais en tout cas, l'auditeur d'RTL qui aura la possibilité de jouer avec nous tout à l'heure. Un cook expert de Magimix qui va vous aider à réaliser des plats gourmands et sains, 100% fait maison. Je vous rappelle que vous avez toute la durée de l'émission jusqu'à 11h30 pour jouer avec nous. Vous nous appelez par téléphone au 3210 ou par SMS en envoyant le mot régal suivi de votre message au 64 900. Je vous souhaite bonne chance. Alors on va se donner quelques petits conseils, parce que vous savez que chacune de nos escales est importante pour notre panier. On va rapporter du vin, on va rapporter des bonbons, on va rapporter du gâteau. On vous en parle dans un instant. On fait notre marché en direct sur RTL, comme tous les samedis matins. À tout de suite.
Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeck. Passez un bon week-end sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Jusqu'à 11h30, RTL vous régale
avec Jean-Michel Zeka.
Et aux côtés de Jean-Sébastien Petit-Demange et de Louise Petit-Renaud. Oui, Jean-Sébastien, je vous enlevais les mots de la bouche parce qu'on va parler des vins du Côte-du-Rhône.
Ah oui, je disais que dans le coffre de la 4L.
Oui.
Parce qu'on est en 4L aujourd'hui.
On a assez de place.
J'ai décidé. On va mettre des vins. Et pas n'importe lesquels. Parce que je vous disais, 200 km pour des vins rouges en grande majorité, mais également des blancs absolument sublimes, quelques rosés aux reflets violets avec des arômes intenses de bonbons anglais, parfois de fruits rouges. Alors au nord, il y a la quintessence de ce que peut offrir le vignoble des Côtes-du-Rhône. Vous imaginez ce blanc qui s'appelle le Condrieux. Ce blanc qui est 100% viognier, ce blanc à la robe d'or pâle, un vin capiteux, onctueux, qui explose en bouche comme une sorte de feu d'artifice, un nectar qui doit tout à ce cépage magique qu'est le Viognier, qu'on boit forcément avec modération parce que les prix sont pas du tout démocratiques. Et donc, c'est aussi bien comme ça, on est pile poil pour continuer sur un petit Côte-Rôtie.
Oh oui,
c'est le vin qui exprime.
On est content, moi.
On avait le Viognier. Côte-Rôtie, ça exprime la quintessence de la Syrah. C'est un cépage très élégant, qui lâche des arômes complexes, assez fascinants. Et puis on pourrait parler Cornas, on pourrait parler Saint-Joseph. Et puis il y a donc ces châteaux neufs du pape. Des rouges composés d'un assemblage de 13 cépages qui donnent une richesse aromatique impressionnante. C'est puissant, c'est équilibré. Des blancs qui sont tout en rondeur, avec une pointe d'acidité qui contraste avec des arômes de fleurs, de fruits. Tout ça fait qu'on peut, on peut s'oublier là-bas, on peut se poser des années sans que ça pose de problème. Enfin, on peut vivre là-bas.
Ça tombe bien que vous parliez de fruits parce que il y a un bonbon aussi qui est confectionné là-bas à base de sirop de fruits confits, justement.
Ah oui, ça c'est le berlingot de Carpentras. C'est une concentration de sirop de fruits qui lui donne une structure dure, assez translucide. Il se présente sous la forme de petites pyramides de différentes couleurs qui indiquent son goût. Ils sont toujours striés de blanc. C'est un berlingot qui date de 1844 et qu'on doit à un pâtissier qui s'appelle François-Pascal Long. C'est lui qui a eu l'idée d'utiliser un sirop d'égouttage des fruits confits et qu'il fit cuire. Il l'a parfumé d'abord à la menthe. Et puis l'idée de le décorer avec une pâte et un sucre blanchi est née très vite. Ça donne ce berlingot de Carpentras que tout le monde adore.
Et est-ce que vous connaissez le gâteau des rois ?
Bah évidemment.
Oui, donc c'est une brioche à la fleur d'oranger qui est recouverte de sucre. Elle est décorée avec des petits fruits confits. Pour vous donner une idée, elle est ronde avec un petit trou au milieu. C'est vraiment une spécialité de la Provence. Ça sent comment ?
C'est une couronne, en fait.
Exactement, ça sent bon la fleur d'oranger. Et il y a ces petits fruits confits qui symbolisent les pierres précieuses offertes par les rois mages.
Et il y a une fève, puisque c'est au sud de la galette. Au nord la galette, au sud le gâteau des rois.
Exactement. Voilà.
Et il y a un autre truc qui est pas du tout de saison, c'est le melon.
Oui, oh là, dites donc.
C'est pas de saison du tout.
Oui, mais enfin, vous n'étiez pas obligé de remettre ça. Oui, il y a le melon, cantalou, effectivement. C'est les papes qui ont mis ce fruit à l'honneur, le charentais le plus connu des melons cantalou. Mmh. Mais plutôt que de parler d'une tarte au melon, faites attention, parce qu'on ne sait pas forcément que Paul II est mort d'apoplexie à 54 ans, 1471, pour avoir mangé à son dîner trop de melons. Idem
vrai.
Pour Albert II, empereur d'Autriche, 1439, trop de melons, hop, terminé.
Ça fait pas rêver.
C'est dangereux le melon.
D'apoplexie ?
Oui.
Bon, en tout cas, vous pouvez quand même continuer de goûter l'huile d'olive de Provence, parce qu'elle est bonne. Elle bénéficie d'une AOP depuis février 2020. C'est après 20 ans de combat qu'ils ont obtenu l'AOP. Donc moi, je dis bravo, parce que c'est vraiment mérité. Donc bien sûr, ça valorise le savoir-faire des oléiculteurs, des mouliniers. Ça garantit aux consommateurs l'origine de la typicité du produit. Alors surtout, si vous voulez faire vos courses comme nous, là, en ce moment, comment reconnaît une huile d'olive de Provence AOP? C'est sur l'étiquette, il faut qu'il y ait l'appellation huile d'olive de Provence, la mention olive maturée, et juste après, l'appellation d'origine protégée et le logo AOP. Comme
d'accord,
ça, vous ne vous trompez
très
pas.
Bien. Voilà, c'est aussi l'esprit d'Hertel Vorial. On est pratique.
Donc, l'huile d'olive, c'est très bien pour le régime crétois, tout. Mais là, il y a aussi le tilleul de Carpentras. Vous savez que, vous allez me dire, des tilleuls, on en trouve partout. Oui, certes. Bon. Mais il s'avère qu'au début du XXe siècle, le tilleul de Carpentras a conquis une notoriété absolument considérable et mondiale, puisque le tilleul de Carpentras fait référence pour juger de la qualité de tous les autres tilleuls. L'étalon référence de la tisane de tilleul, c'est le tilleul de Carpentras.
C'est tellement
d'accord.
Bon.
D'accord, très bien. Du tilleul, de l'origan.
Alors ça, c'est l'origan du Comtat. L'origan du Comtat, c'est une liqueur produite du côté de Châteauneuf-du-Pape qui contient évidemment de l'origan, autrement dit de la marjolaine, hein, puisque c'est la même chose, qui titre à 38 degrés d'alcool, qui est composé d'alcool, de miel, d'une soixantaine de plantes, donc de la marjolaine, de la lavande, de la sauge, de la verveine, du thym, etc. Liqueur inventée en 1870. Et alors, ce qui est hallucinant avec cette liqueur, c'est qu'en 1884, il y a la dernière épidémie de choléra qu'a connue la France qui s'abat sur Avignon. Et cette liqueur a fait preuve de vertus anticholériques insoupçonnées. Et donc, vous imaginez le succès.
De toute façon,
et vous le transposez aujourd'hui si on avait une liqueur contre le Covid. Vous imaginez le truc.
Mais attention, c'est toujours à consommer avec modération. Hein.
Voilà, mais, enfin, non, sauf mais... qu'en cas de choléra.
Non, mais on a un truc, on a du vin contre le Covid, non?
Non.
Le Saint-Véran. Elle sera l'invitée d'RTL Four Égal tout à l'heure en fin d'émission. C'est l'ambassadrice des ambassadrices, ambassadrice de la France et de sa région natale, la petite fille d'Avignon. Mireille Mathieu sera là tout à l'heure.
Nous avons joué notre vie ensemble, et puis un beau jour, la chance a tourné. On finira pas la partie ensemble, et chacun s'en va seul de son côté. Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. J'étais sûre de moi, je vivais tranquille, et ta main dans ma main, j'ai croisé les doigts.
En 1981, vous avez reconnu évidemment le Winner Takes It All d'ABBA, repris ici par Mireille Mathieu. Bravo, tu as gagné. Mireille, qui sera l'invitée d'RTL vous régale tout à l'heure. Rendez-vous dans quelques minutes sur RTL.
Restez bien avec nous. RTL vous régale revient tout de suite.
RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Bien, Louise.
Oui.
Jean-Sébastien.
Oui.
Nous sommes dans la Cité des Papes, et si vous allez admirer le Palais des Papes, est-ce que vous l'avez vu déjà d'ailleurs tous les deux?
Oui.
Le Palais des Papes. Si oui. Vous êtes juste en face,
oui.
Vous allez trouver la Mirande, oui. Qui depuis 2017, avec son chef Florent Pietraval, propose une cuisine exceptionnelle. Oui. Cuisine de saveurs inédites et inattendues. Ça vous fait sourire, mais moi je peux le dire. Hein. Florent Pietraval, il est avec nous ce matin. Bonjour Florent, bienvenue chef.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Je précise que vous aviez déjà une première étoile et qu'en janvier, vous avez reçu ce qu'on appelle l'étoile verte. C'est la dernière née du guide Michelin qui récompense l'engagement durable d'un restaurant, de l'équilibre des menus à l'origine des ingrédients. Vous dites que pour vous, la gastronomie durable, c'est plus qu'une vision, c'est une façon d'être au quotidien. Ça pourrait sembler être des lieux communs, mais c'est tellement vrai en ce qui vous concerne. Ça s'illustre comment ?
Ah, ça s'illustre par la relation qu'on a avec tous les gens avec qui on travaille autour de nous. Ça s'illustre par la façon de penser les plats, parce qu'on réfléchit avec nos produits locaux et après on fait quelque chose de qui nous parle, qui nous tient aux tripes et on prend surtout du plaisir.
Le meilleur exemple de ça, c'est que vous composez votre menu en fonction de l'arrivage et pas de l'inverse.
Exactement, on fait ce que la terre, la mer nous offre à la semaine. Par exemple, mon pêcheur va chercher le poisson, il ramène ses filets, il me montre ce qu'il a, et suivant ce qu'il a, on va créer le menu de la semaine.
C'est important ça, je trouve. Vous n'êtes pas le premier chef à nous dire combien la relation avec les pêcheurs, je prends l'exemple du pêcheur parce qu'il est parlant, sont des gens qui ont un métier difficile, qui se lèvent très tôt, qui sont là la nuit, qui sont peu chez eux, et quand ils reviennent avec des beaux produits, ils aiment toujours qu'on les magnifie, et ils aiment venir dans les cuisines, rencontrer les chefs, pour voir ce qu'on va faire de leur pêche.
Ah, c'est important, parce que c'est franchement, quand tu passes une journée avec un pêcheur, tu dis quel travail, quoi. Même si le nôtre il est chargé, je peux dire que le leur c'est physique, c'est éreintant, et c'est aussi un métier de passion. Et pour moi, il est important que tous les producteurs aussi voient le travail terminé et le poisson jusqu'où on peut l'amener.
Et qu'est-ce qu'il vous a apporté justement ce matin?
Ce matin, on a eu un turbo. On a eu la chance.
C'est reparti.
Alors, c'est pas tous les jours. Mais ce matin, on a eu un très, très beau turbo. Mais des fois, ça peut être du mulet. Des fois, ça peut être du maquereau. Enfin, il n'y a pas de... C'est vraiment la mer qui décide.
Parce que vous expliquez que parfois, vous leur demandez un poisson à 8 heures qui n'est pas encore pêché et ils vont l'attraper au dernier moment.
Exactement. C'est arrivé que première pêche, bredouille, la tempête, le temps, enfin, ça ne s'explique pas forcément. Et ils sont repartis, ils sont repartis en mer pour la matinée. Ils nous ont ramené du poisson au dernier moment. C'est vraiment arrivé, quoi.
C'est frais, en direct.
Exactement.
C'est pour ça que vous inscrivez pas les poissons à la carte au restaurant.
Voilà, exactement. On préfère ne pas dire et un peu laisser le poisson décider.
Vous avez raison. Florent Pietraval, on entend aujourd'hui beaucoup de chefs évoquer les cuisines du monde. C'est vrai qu'on cuisine des ingrédients qu'on ne cuisinait pas il y a encore quelques années. Est-ce que c'est compatible, cette logique-là, avec l'idée de faire court pour les circuits, de faire local, de composer avec ce que la nature vous propose au plus proche?
Bah, c'est vrai que nous, voilà, moi j'adore ça, j'ai beaucoup voyagé de par mon métier. Et j'ai goûté beaucoup de choses, vu beaucoup de techniques, et j'aime les retranscrire, mais on utilise des produits locaux.
Ah voilà.
Par exemple, on va faire un ail noir, mais avec l'ail, un ail de chez nous, quoi. Et ça, c'est très intéressant, ça permet on sort un petit peu de la cuisine provençale classique, on va un peu la twister avec des condiments, avec des choses un peu de, comme vous dites, cuisine du monde, et puis on va les retrouver dans notre assiette, mais avec à la base un produit local.
Anthony, qui prépare l'émission avec nous, me disait, moi j'ai découvert ça en même temps que lui en préparant cette émission, que vous aviez trouvé, enfin vous peut-être pas personnellement, mais qu'on trouvait en Méditerranée cette fameuse algue kombu, qu'on retrouve beaucoup dans la cuisine japonaise, c'est un truc très à la mode. La bonne nouvelle, c'est qu'on en trouve en Méditerranée.
Il y en a en Méditerranée, il y en a en Bretagne. Des fois on remonte des choses, mais on se rend même pas compte, parce que c'est pas un mec qu'on a l'habitude de consommer nous localement. Mais le kombu, ça a des saveurs juste incroyables. Et la mettre dans un bouillon, l'infuser, la faire sécher, la fumer, enfin, on peut faire plein de choses avec. Et je montre à Mathieu à quoi ça ressemble. Il me dit, mais moi, j'en ramasse tous les jours quand je remonte mon poisson. Et je dis, ben, mets-les-moi de côté. Ça a commencé comme ça, et maintenant, on en a à la carte.
Est-ce que, moi, je suis très attaché au patrimoine autant qu'à la cuisine. Est-ce que quand on travaille dans une maison aussi incroyable que la Mirande, qui a quand même 7 siècles d'existence, est-ce que ça influe sur la manière dont vous créez les menus?
C'est un lieu magique, c'est un lieu, bah, comme vous dites, quoi, au Palais des Papes. Les cardinaux vivaient dans cette maison, donc il y a quand même quelque chose d'assez magique, et ça se ressent à travers les murs, quoi. Après, ma cuisine, elle fait un joli contre-pied, elle est moderne et en même temps classique, et on aime s'amuser avec les gens, partager, c'est une maison vivante, où il se passe plein de choses, et en même temps, comme vous dites, qu'il y a ce lieu chargé d'histoire qui est très majestueux et magnifique.
Les murs parlent à Avignon, c'est sûr. Et quand on parle de murs, au fait, vous les avez reçus aussi, vous.
Oh là là, on n'arrête pas le progrès. Hein.
Non mais c'est vrai, je sais que vous avez reçu les murs il y a un mois, et vous les faites fermenter.
Exactement, c'est le principe des saisons. Voilà, j'aime mettre la mûre avec le gibier, on a le gibier qui commence, mais la mûre, c'est un petit peu plus tôt. Quand elles sont parfaites, là, fin août, on va les chercher, on les ramasse, et après on les fait fermenter, on les conserve dans un vinaigre cuisiné.
Oh, génial.
Et
après,
en plein hiver, voilà, comme un condiment, et en plein hiver, on peut le resservir avec un lierre, avec une biche.
Et ça veut dire qu'on peut déglacer avec un peu de vinaigre de mûre, comme ça.
C'est génial.
Est-ce que vous nous mettriez l'eau à la bouche quelques secondes? Ce midi, qu'est-ce qu'on peut trouver pour déjeuner à votre table?
Ce midi, on a un dessert qui est très très bon. C'est la poire noire. Poire noire, pareil, une poire noire qui a caramélisé pendant 6 mois. On a obtenu une poire concentrée en sucre et sans sucre ajouté, quoi. Et après, on la met à macérer dans une autre vie, ça fait une autre vie de poire noire.
Oh là là. Ça doit être dingue, cette histoire que vous racontez, là.
Cette poire noire, c'est un dessert.
C'est un dessert. Et alors, en plus, ce qui est rigolo, donc j'ai donné, une fois que j'ai eu ces poires noires, je ne savais pas trop quoi en faire. Et on a des copains sur la Barthelas qui font des eaux de vie qui s'appellent la Maison Manguin. Et je leur ai laissé, et ils l'ont mis à macérer dans un cœur de chauffe. Et donc, une fois qu'il avait filtré, j'ai récupéré cette macération que eux ils jettent normalement. Et j'en ai fait une glace. Et
donc, oh là là.
Bon, les garçons, vous savez ce qu'on fait à 11h30. Hein.
Et là, c'est là qu'on regrette d'être à Paris. Florent Pietraval. Ouais, c'est vrai que ça va vite. La Mirande à Avignon.
Merci, chef.
Merci de nous avoir fait rêver, chef. On vous souhaite un bon week-end.
Merci vous aussi.
On vous laisse aux cuisines. Dans un instant, la petite gourmandise de Louise.
Ben oui.
On va parler de quoi? C'est surprise.
Bah comme je vous ai plutôt sage, je vais vous surprendre. Bah c'est surprise l'indice, surprise.
J'ai vu un truc.
Il ne faut pas se fier aux apparences.
Bon, on en parle dans un instant, ne bougez pas. Vous restez avec nous, c'est RTL vous régale, comme tous les week-ends.
Jusqu'à 11h30,
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Surprise, surprise! Et bien oui, comme je vous l'ai dit, je vous ai trouvé tellement sympathique que ce matin, j'ai eu envie de vous faire une petite surprise. Bon, les garçons, regardez ce que vous avez devant les yeux. Qu'est-ce que c'est?
C'est du chocolat.
C'est rose.
Pas mal.
Ça a l'air bon.
Ouais. C'est surprenant.
Parce qu'il y a une deuxième couche à l'intérieur.
Il y a un deuxième effet qui se coule.
Alors, pour commencer, ces chocolats s'appellent des papalines.
Ah, c'est ça.
C'est une spécialité qui est venue tout droit d'Avignon. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une confiserie. C'est à la forme d'un chardon. C'est une couleur rouge-rosée. Et dessous se trouve une couche de chocolat blanc, une couche de chocolat noir. Et là, surprise, surprise.
C'est fort. Il y a de la liqueur là-dedans.
Vous avez de la liqueur d'origan.
Ah voilà.
Alors, c'est pas mal, non?
Ça envoie. Hein.
Ouais, bon. Ça envoie.
Minute papillon, écoutez-moi parce que je vais d'abord vous raconter l'histoire. Alors, ça s'appelle la papaline. Aujourd'hui,
minute papillon.
Écoutez-moi, ça s'appelle la papaline. Aujourd'hui, on est à Avignon. Papaline, pape, vous faites le lien
ouais.
ou pas?
Bah oui, forcément, ouais, bien sûr.
La cité des papes.
Cité des papes.
Donc c'est pour ça que cette confiserie a une couleur rosée. C'est en hommage à la couleur des soutanes des cardinaux.
Okay.
Mais sa création ne date pas de cette période-là. On est en 1959 et la mode était au chardon liqueur.
C'est fort.
Moi, je trouve ça fantastique qu'il y ait des modes comme ça. Mmh. Et l'année suivante, il y a des maîtres pâtissiers du Vaucluse qui ont créé donc cette spécialité, la fameuse papaline. Ouais, parce qu'après tout, Aix-en-Provence a son calisson, Montélimar son nougat, pourquoi pas Avignon, non?
C'est fait comment ce truc-là?
C'est fabriqué uniquement à base de produits du terroir. Vous avez donc cette liqueur d'origan. C'est une liqueur d'origan du Comtat, comme nous a parlé Jean-Sébastien tout à l'heure, de la maison avignonnaise Blacher. C'est Auguste Blacher qui est un liqueuriste et qui a cette géniale idée en 1835 d'assembler une soixantaine de plantes, dont l'origan, qui sont cueillies sur les contreforts du Mont Ventoux. Et Jean-Michel, comme je sais que vous êtes un grand cycliste et que vous connaissez bien ce Mont Ventoux, vous avez forcément dû croiser un jour ou l'autre ces petites plantes, vous ne pensez pas
il va trop vite.
C'est-à-dire que si vous comptez monter le Ventoux à coup de bidon à la liqueur d'origan, je pense que le projet va vite être avorté.
Bon, en tout cas, cette liqueur à l'époque, comme le disait Jean-Sébastien, aurait permis de lutter contre la pandémie du choléra. Mais bon, moi j'ai envie de vous dire, comme on n'y était pas, on ne peut pas savoir comme c'était efficace. Donc on répète, c'est qu'à consommer avec modération, évidemment. Alors, voilà.
Le truc, c'est... vous prenez pas les papalines dans la voiture pour les grignoter comme ça.
Il y a de la liqueur.
C'est très fort.
Donc vous savez tous les garçons, c'est une confiserie à base de chocolat, il y a de la liqueur d'origan, un petit soupçon de miel pour adoucir le tout. Elle est même inscrite à l'inventaire du patrimoine national des spécialités françaises. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai réussi à vous surprendre?
Alors, hormis le fait que c'est sublimement bon.
Ah oui?
Parce que c'est hyper, c'est moi, j'aime pas, je suis pas très sucré, je suis pas très bec sucré. C'est formidablement
équilibré. Dès qu'il y a de la liqueur...
Je trouve que c'est un peu la Provence en une bouchée.
C'est vrai. C'est exactement ça. C'est à la limite, on pourrait dire, c'est bien que Ducrot se soit écarcassé pour mettre autant d'herbes dans la liqueur.
Mais oui, vive les spécialités. Surtout, je voulais remercier à la maison Jouveau qui nous a gentiment envoyé ses papalines. Puis c'est joli à dire, les petites papalines.
Oui.
Et je vous assure, monsieur l'agent, j'ai juste pris un petit bonbon.
On va pas papaliner longtemps.
D'ailleurs, je vais pas en prendre une deuxième. Parce que...
Par contre, je reprendrai bien un petit coup de défi frigo. Et vous?
Plaisir.
C'est quand même le moment fort.
Et stressant surtout. Hein.
Du samedi matin.
Je sais que ça vous.
Je sais que ça vous stresse. Je sais que ça vous... moi je suis loin de tout ça, mais j'organise le stress, si vous voulez. Tous les jours, j'y pense à ce défi frigo pendant la semaine.
Qui disait cette semaine dans cette maison, de toute manière, le défi frigo, c'est bien parce que j'en sais perd à la fin.
Oui, et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Bon, dans un instant, un auditeur d'RTL nous donne un ingrédient de son frigo, deux recettes originales, vous aurez le temps des infos à 11h pour potasser là-dessus. Et je vous souhaite déjà bonne chance, il y a un cook expert de Magimix à gagner, on s'en parle juste après ça.
Restez bien avec nous, RTL vous régale, revient tout de suite. RTL 10h15, 11h30,
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Le défi frigo d'RTL vous régale comme tous les samedis aux alentours d'11h. Deux recettes imaginées par Louise Petit-Renaud et Jean-Sébastien Petit-Demange sur base d'un ingrédient de vos frigos. Bonjour Edith.
Bonjour à tous.
Bonjour Edith.
Et bienvenue sur RTL. Alors les amis, je vous présente Edith qui est en Normandie, limite entre la Seine-Maritime et la Normandie. Elle n'est pas très loin de Dieppe.
Oui.
Alors si je vous dis qu'elle est pas très loin de Dieppe, à votre avis qu'a-t-elle dans son frigo?
Des coquilles Saint-Jacques.
Raté.
Ah bon?
Raté. Je vais vous expliquer parce que même pas. Edith, on trouve dans son jardin. Je vous donne un indice. Dans le jardin d'Edith, on trouve quelque chose qui permet de faire ce produit.
Ah.
Qui permet de transformer, c'est ça?
Ouais, exactement.
Vous ne trouverez pas donc dans mon frigo.
Des confitures?
Non, mais vous vous en approchez. Et dites un indice.
Un indice.
Allez, je vous dis Maya.
Du miel.
Exactement. Voilà. Parce que il faut expliquer, Edith. Vous faites votre propre miel. Vous avez des ruches dans le jardin.
C'est ça. J'ai mes propres ruches et je fabrique mon propre miel avec mes abeilles parce que je suis très nature. Et puis, je me suis lancée dans cette aventure il y a 4 ans maintenant, grâce à une association, parce que je ne me suis pas lancée toute seule. Il faut savoir que c'est très compliqué, donc il faut savoir aussi s'en occuper. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Donc, j'ai eu une association qui s'appelle Abeilles et Essaims dans le 76. D'ailleurs, j'embrasse Jackie, mon professeur. Et j'ai pris des cours pour apprendre à avoir des ruches chez moi et à savoir les élever et les nourrir quand il faut également. Parce que l'année a été très compliquée. Il ne faut pas penser qu'à soi et en extraire son miel, mais aussi à les nourrir là en cette période automnale et hivernale.
Ouais.
Voilà. Et j'ai l'avantage d'avoir mon propre miel et de faire mes propres recettes avec...
On va, On va évidemment, reparler dans quelques instants, Edith, puisque mes camarades vont imaginer deux recettes de cuisine originales à base de votre miel. Vous nous expliquerez de quel type de miel il s'agit. On en reparle dans quelques instants pour l'issue du défi frigo. Je vous souhaite déjà bonne chance, Jean-Seb et Louise. Le nez dans le guidon. Dès maintenant, le temps des infos. Vous écoutez RTL, il
est 11h03, on vous retrouve Jean-Michel et on se régale avec le miel d'Edith.
Exactement, du miel du jardin d'Edith même. C'était Sébastien Roxel, prochaines infos tout à l'heure à midi sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Bonjour, c'est Laurent Baffi. Si j'étais vous, je resterais devant le poste. Il va se passer des choses incroyables.
Nous, tout ce qu'on demande, c'est... Vous allez être gentil avec les animateurs, Jade et Eric, on espère quand même.
Je les adore.
Ah.
Et bien, c'est là qu'on dit qu'on craint le pire.
Oui,
rendez-vous pour refaire la télé.
Faut se méfier.
Voilà, ça commence. Rendez-vous à 11h30 pour refaire la télé du mois. Essayez
l'autre mois.
Avec Laurent Baffi.
Jusqu'à 11h30,
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait.
Le défi frigo d'RTL vous régale. Comment magnifier, grâce à deux recettes originales, le miel produit par Edith elle-même? C'est du miel toute fleur, comme on dit, Edith, ou il y a un truc spécifique chez vous?
Non, tout à fait, c'est du miel toute fleur. Et en fonction de la saison, les fleurs sont différentes, bien évidemment. Mmh. Vous avez un miel de printemps qui sera plus crémeux. Et un miel d'été qui sera plus liquide, peut-être
plus liquide.
Un peu plus fort chez moi, du fait que j'ai des châtaigniers également et qu'elles adorent, les abeilles adorent butiner le châtaignier.
On ne doute pas qu'il est délicieux. Ça me permet de rappeler à tous ceux et à toutes celles qui ont la chance d'avoir des jardins combien il est important, et c'est pas vous qui allez me dire le contraire, Edith, de pas utiliser de pesticides, parce que c'est le pire ennemi des abeilles, et que si on veut continuer à avoir une planète en bonne santé et avoir du miel de qualité, il faut arrêter de mettre n'importe quoi sur les plantes. Je vous dis bonne chance à tous les deux, parce que le miel en cuisine, je dis d'accord, mais il y a déjà des choses qui sont vues et revues. Alors faites-nous rêver. Vous voulez commencer avec qui, Edith?
Bah, peu importe, allez Jean-Sébastien, puisque il n'aime pas trop le sucré, donc...
Mais écoutez, ça tombe bien, je vais vous faire un dessert.
Allez, 1 minute 30, c'est parti.
Vous allez prendre une orange que vous allez râper le zeste de cette orange, et puis vous allez presser le jus de l'orange que vous allez diluer avec votre miel, justement. On est en pleine saison de la pomme. En plus, en Normandie, la pomme, ça manque pas. Donc, vous allez en couper quelques-unes en tranches, que ce soit de la golden, c'est un peu le couteau suisse de la pomme, ça peut servir à tout. Vous pouvez aussi prendre des belles chars. Si vous en trouvez, c'est une pomme qui a une belle tenue. Vous pouvez rajouter quelques tranches de poire également, pourquoi pas. Vous faites fondre du beurre dans une sauteuse. Vous ajoutez un tout petit peu de sucre en poudre et vous faites cuire 2 minutes en remuant et en retournant les fruits. Ensuite, vous ajoutez quelques pruneaux, quelques raisins secs, vous versez le jus d'orange au miel et vous laissez cuire à couvert, à tout petit bouillon, pendant 10 minutes. Vous retirez le couvercle, vous laissez 2 minutes pour que ça réduise et que ça épaississe un tout petit peu. Hors du feu, vous ajoutez une cuillerée à soupe d'eau de fleur d'oranger, vous servez ça dans des belles assiettes et vous avez un fabuleux tagine de fruits au miel. Wow.
On s'y attendait pas, non?
Ah non, mais c'est pas mal ce truc. Un tagine de fruits.
Bah voilà.
Original.
Eh oui.
Original.
Pomme, cher.
Pruneau, raisin et miel.
Et poire.
D'Edith. Et poire. De la poire. D'accord. Ouais. Bon, j'avais compris qu'il y avait de la poire, mais pas que. Alors, Louise, est-ce que vous allez vous faire un truc sucré aussi ou pas?
À votre avis?
Moi, je dis salé.
Ouais, exactement.
Je le voyais venir. C'est parti, 1 minute 30.
Alors Edith, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais moi je commence à avoir un peu froid là, on sent que l'hiver arrive. Du coup, je vais vous proposer quelque chose de rassurant et de réconfortant. Nous allons faire une courge style butternut farcie aux chèvres et au miel. Vous allez couper votre butternut en deux dans le sens de la longueur, enlever les pépins, enlever un petit peu la chair, mais il faut quand même en laisser. Vous gardez cette chair, évidemment, vous la jetez pas, vous pouvez en faire une soupe ou la congeler, ça se congèle très bien. Ensuite, une fois que vous avez donc votre petit puits, entre guillemets, vous mettez un trait d'huile de noisette, si vous avez. Sinon, vous mettez une huile basique. Et vous allez mélanger à côté du chèvre frais avec votre bon miel. Vous allez crémer un petit peu le tout quand même. Et vous allez mettre tout simplement cette petite crème de chèvre miel dans votre petit puits de butternut. Ajoutez, si vous avez des petits cerneaux de noix au-dessus pour le côté croquant. Puis direction la cuisson au four pendant 30 minutes.
Voilà. Et l'affaire est dans le sac, le
et
tour est joué.
Est dans le sac.
Courge farcie aux chèvres et au miel. Bon.
Ah, voilà.
Et ma chère Edith.
Oui.
L'heure du choix est venue. Il est 11h09 en ce samedi 23 octobre de l'an 2021. Qui va emporter le défi frigo de ce week-end entre un tagine de fruits et la courge farcie aux chèvres et au miel? C'est vous qui décidez.
Alors je ferai les deux, parce que les deux recettes me plaisent, bien évidemment.
J'avoue.
Et je trouve tous ces ingrédients dans mon jardin pour la plupart.
Ah, c'est hein, génial.
Que ce soit les pommes, les poires, ou que ce soit également le butternut. Voilà.
Ah, c'est une bonne
mais je vais faire plaisir à ma fille, parce qu'elle me dit, de toute façon, tu ne prendras pas la recette salée, parce que tu n'es pas trop sucré-salé.
Ah, bon, bah.
Je vais la faire mentir, et je vais donc prendre la recette de Louise.
Coup de théâtre. Quel sens de la dramatique. C'est génial.
Bon,
victoire
écoutez,
de
merci,
Louise.
Hein. Merci Edith, vous me direz si c'est bon.
Oui, tout à fait. Ça me plaît d'essayer.
Ah,
mais quand vous dites ça, Louise, c'est parce que vous en doutez.
Absolument pas, mais chacun ses goûts.
Mais oui, évidemment.
J'aime bien qu'on fidélise avec nos auditeurs qui nous rappellent
raison.
Après pour savoir si tout s'est bien passé.
Une courge farcie aux chèvres et au miel, victoire de Louise Petit-Renaud dans le défi frigo. Dites-moi Edith, est-ce
oui.
que vous avez encore un peu de place dans votre cuisine?
Oh, je vais en trouver, je vais en faire.
Parce que vous me voyez arriver avec mon gros carton.
Oh oui. Oh
j'ai,
oui.
J'ai là-dedans le robot des robots dont tout le monde rêve. Merci à Magimix d'être notre partenaire dans RTL Voyal toutes les semaines, parce qu'ils vont vous offrir le robot cuiseur multifonction. Ce
génial.
Cook expert qui vous faisait rêver est aujourd'hui le
oui.
vôtre. Voilà.
Ouf, sympa, c'est très
c'est-à-dire
gentil, que, merci
que
beaucoup.
Que ce
bravo,
soit le tagine,
Edith.
Que ce soit le tagine de fruits, que ce soit la courge farcie aux chèvres et au miel, hop, dans le bol du Cook Expert.
Il fait tout.
Et il fait tout. Et il y a en plus 2000 recettes qui sont disponibles gratuitement sur l'appli et le site magimix.fr. Allez jeter un coup d'œil. C'est vraiment le partenaire indispensable de tous ceux qui, comme vous, cuisinent et cuisinent de bonnes choses. Vous avez bien fait de venir nous voir, Edith.
Oh oui, tout à fait. Et c'est un régal, votre émission, sans parler des recettes. Donc,
c'est gentil.
C'est vraiment c'est sympa. Ça donne le sourire. Hein, c'est génial.
Mais vous
ça
pouvez pas savoir.
Votre ambiance.
Vous pouvez pas savoir ce que ça nous fait plaisir d'être avec vous tous les samedis. On vous fait un gros bisou, prenez soin de vous et à très vite oui. et bonne cuisine. À bientôt.
J'embrasse juste mes petits-enfants, Margot, Zach et Sophia.
Nous merci, aussi, on les embrasse. Nous
qui
aussi.
Se seront reconnus. Et je rappelle que pour lancer un défi frigo à Louise et Jean-Seb, c'est facile. Vous appelez le 3210 encore pendant une bonne dizaine de minutes. Ou alors 64 900 pour la semaine prochaine. Par SMS avec le mot régal, vous nous donnez l'ingrédient que vous souhaitez que nous utilisions. Et rendez-vous dès samedi prochain. Bad Habits. Voici Ed Sheeran sur RTL. Très bon samedi à tous.
Every time you come around, you know I can't say. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late.
sending low conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes.
Ed Sheeran, c'est un peu le pape, hein, puisqu'on est dans la cité des papes ce matin. Le pape des ventes de disques aujourd'hui. Avant d'accueillir celle qui sera ce matin, je vais vous le dire franchement, l'ambassadrice des ambassadrices. Elle est depuis le début de sa carrière l'ambassadrice même de la France dans le monde entier. 1200 chansons chantées en 12 langues, 200 millions de disques vendus dans le monde, 2500 concerts. Bonjour Mireille Mathieu.
Je voulais saluer Louise et Jean-Sébastien aussi.
Bonjour,
et je sais
Mireille.
J'ai une amie qui est présente sur le plateau.
Oui.
Qui est, bon, Isabelle, qui est Isabelle Morini-Box, que tout le monde connaît, qui est une grande, grande amie.
Et elle ben est voilà. Avec nous.
Comme ça, on est transparent totalement. Voilà, on est avec Isabelle Morini-Bosque qui est avec vous en ligne il y a quelques instants. Mireille, ne bougez pas. On se retrouve après une toute petite pause et on parle de votre ville, évidemment.
Avec grand plaisir.
A tout de suite sur RTL.
A tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Je vous le disais, elle est l'ambassadrice des ambassadrices dans RTL vous régale. On va à Avignon aujourd'hui. J'ai failli dire en Avignon.
Non.
En plus. Ah bah je sais.
On peut dire les deux.
Ouais. Vous savez qu'on a tordu le cou à cette histoire depuis le début de l'émission. Jean-Seb nous expliquait qu'on ne dit plus en Avignon depuis...
Que ce n'est pas, c'est plus un état souverain.
Voilà,
mais
exactement.
On dit comme Mireille veut.
Voilà. Je crois qu'on peut dire les deux.
Mireille, on fait tout comme vous dites, d'accord? Parce que Avignon, c'est votre porte-bonheur depuis le début. Faut se souvenir quand même que votre premier concours de chant, il a lieu là-bas.
Ah oui, le premier concours de chant, on chante dans mon quartier, j'habite la Croix des Oiseaux. Et je me suis produite, c'était un concours de chant amateur. Il y avait des personnes de la ville d'Avignon qui venaient chanter ou des environs. Et je me suis présentée, je l'ai fait trois fois. La première fois, j'étais très mauvaise, pas bonne du tout. Deux fois, j'avais appris la leçon, j'étais mieux la deuxième fois. Et la troisième fois, j'ai gagné.
On va pas parler que de chansons et de musique. Vous savez que nous, on adore parler de cuisine.
Ah, je sais.
Mais
vous, vous êtes épicurien.
Et je rajoute généralement ça, et pire que ça. Est-ce que vous avez gardé des parfums de la cuisine de votre enfance, vous qui êtes l'aîné d'une famille de 14 enfants? J'imagine qu'on cuisinait beaucoup à la maison.
Ah bah maman, oui, beaucoup. C'est, évidemment, pour moi, la Provence, ça se chante. C'est l'ail qui chante dans la poêle ou dans les casseroles. C'est la tomate. Tous les légumes, ça chante comme les cigales.
Mais quelles sont vos madeleines de Proust? Est-ce que la papaline, par exemple, dont nous parlait Louise tout à l'heure...
La papaline est représente évidemment comme
la confiserie.
J'arrive pas à trouver le mot.
Le nougat.
Mais là, c'est la papaline, oui. C'est à base de liqueur.
Oui.
Oui, on a goûté ça.
De liqueur de plantes.
Oui.
Les moines, par exemple, j'achète mon miel au Barou, fait par les moines.
Ah bah, on en parlait du miel, justement, il y a quelques instants avec notre auditrice.
Vous avez raison de protéger. Il faut protéger nos abeilles parce que c'est la vie. C'est notre vie. C'est très important de protéger les abeilles. Et les moines sont experts dans tout ce qui est abeilles, apiculture. Enfin, plein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Nous achetons, puisque je parle de légumes ou de fruits, nous avons la chance d'avoir un producteur de légumes. Nous achetons nos aubergines, nous achetons les melons, quand c'est l'époque évidemment, le melon, les fraises, et ça me permet de saluer tous les agriculteurs parce que ça a été dur pour eux avec le gel qu'il y a eu. Par exemple, les pêches, ça a été très difficile de trouver des pêches en Provence.
On salue tous les agriculteurs, vous avez raison de le dire, et les apiculteurs de France aussi.
Oui, exactement, vous avez raison.
Où est-ce que vous allez vous balader à Avignon, Mireille? Est-ce que vous avez vos habitudes?
Mes habitudes, je sors dans le jardin de ma maman où il y a du romarin. Il y a du romarin, il y a des fleurs de Provence. Il y a le thym, il y a du thym, de la verveine. Parfois, je vais au barreau, parce que le barreau, on parcourt la garrigue. C'est très, très, très beau.
Mais je voulais dire, au-delà du jardin de votre maman, est-ce que vous avez des adresses? Est-ce qu'il y a un restaurant, par exemple, que vous adorez?
Il y a un endroit où je vais, c'est à l'Hôtel d'Europe.
Ah,
alors, c'est extraordinaire. Vraiment, le chef a une étoile. Il met tout son cœur. Il y a toutes les saveurs de la Provence.
Et puis, c'est une très belle maison aussi. Ouais.
Hein. Et vous savez, vous savez, les amis, que croiser Mireille Mathieu à Avignon, c'est pas évident. On dit là-bas qu'avoir la chance de la croiser dans la ville, c'est ajouter un deuxième soleil à Avignon. Rien que ça, Mireille.
C'est adorable.
Et ouais, c'est joli. Et je précise que votre actualité en ce moment, c'est la réédition de votre tout premier album qui date de 66, c'est ça
de Fabulous
New French Singing Star, Mireille Mathieu.
C'est à l'époque, c'était la maison Barclay. Et la maison Barclay a sorti donc tous ses titres. Mais il y avait des titres qui ne sont pas sortis. Il y avait des bonus dans le monde. Et elle a vraiment ce vinyle. Et c'est une merveille parce que c'est toutes les couvertures de tous ces 45 tours. Avant, c'était les 45 tours. Et alors, du monde entier. Et c'est vraiment superbe.
J'adore vous entendre parler de 45 tours parce que ouais. Ça nous fait du bien. Ouais. 45 tours comme celui-ci. Là, vous chantez Paris, mais Dieu sait si vous racontez bien Avignon, votre ville d'enfance, votre jeune
Michel. Le pont d'Avignon aussi, le pont d'Avignon qui date du XIIe siècle, ouais. Je crois, et qui est merveilleux. Avant, il y avait 22 arches, et maintenant, il y en a plus que 4.
Le pont Saint-Bénézé,
C'est qui est l'emblème quand on parle d'Avignon, le pont d'Avignon et la comptine que tout le monde chante sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, tout le monde connaît dans le monde.
Allez, tous en cœur, Jean-Sébastien, Louise.
Allez,
on y danse, on y danse.
Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse tous en rond.
Regarde à toi, André Manoukian. Nous arrivons. Mireille Mathieu était l'invitée d'RTL.
Merci.
On fait un énorme bisou, Mireille.
Ah, mais moi aussi.
Merci.
Vive RTL. Vive la Provence. Vive Avignon. Et voilà. Vive la France.
Vous embrasse.
Vive Mireille Mathieu.
Je vous embrasse.
Moi aussi.
Vous régale.
11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
Alors avec Jean-Sébastien, justement, le petit pas plus loin pour terminer RTL vous régale. Quel est le lien entre Avignon et l'Allemagne?
L'Allemagne, la Sarre. On est en Allemagne, donc au carrefour avec la France et le Luxembourg. La Sarre, c'est un land connu pour ses mines de charbon, pour son minerai de fer qui ont fait la richesse de l'endroit dès le 18e. À Völklingen, on découvre le premier bâtiment industriel inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. C'est un ensemble sidérurgique hallucinant de 600 000 mètres carrés qui date de 1873, qui a été fermé en 1986. C'est un site témoignage précieux de la révolution industrielle en Europe, d'où son classement. Le site, il est à une dizaine de kilomètres de Sarrebruck, une ville à un jet de pierre de la frontière française. On oublie toujours d'évoquer les merveilles de l'architecture baroque de Sarrebruck, témoin de la richesse de la ville. La basilique Saint-Jean, le château, la Stiftskirche Saint-Arnuel, qui renferme 50 tombeaux gothiques et renaissance des comtes de Nassau-Sarrebruck. Et puis un peu plus à l'est, on peut passer par Hombourg. Les princes du coin y vivaient dans le château de Carlsberg, un palais plus beau et plus grand que celui de Versailles. Ce qui fait qu'en 1793, des révolutionnaires français vinrent le détruire. Il en reste quelques ruines et le siège social de la brasserie du même nom. Mais en fait, ce château et Hombourg nous ramènent à Avignon. Parce que le prince de Hombourg est une pièce de théâtre qui raconte la vie d'un prince somnambule qui ne peut sortir de ses rêves et qui a été pour cela condamné. Prince qui fut incarné de façon magistrale par Gérard Philippe en 1951 dans la cour du Palais des Papes. Il a apporté au tout jeune festival d'Avignon sa renommée mondiale.
Et si vous vous demandiez quel était le lien entre Avignon et l'Allemagne, maintenant vous savez.
Exactement.
Voilà, parce que je pensais que c'était la 7e compagnie, vous savez. Si je retrouve le con qui a fait sauter le pont. Bon, dans un instant, vous allez retrouver Jade et Eric Dussard qui reçoivent Laurent Baffy et Bob Sinclair. Quant à nous, Louise, Jean-Sébastien et moi-même, on vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour RTL vous régale à Saint-Émilion. Très bon week-end à tous. Et je vous rappelle que cette émission est à réécouter en podcast sur l'application RTL. À samedi prochain.
RTL.